Si j'ai l'habitude de parler des troubadours pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, mais c'est la première fois que j'ai le temps, l'occasion, grâce à Tanguy qui m'en a suggéré l'idée, de venir m'étendre un petit peu plus sur ce sujet qui me passionne. Et c'est pourquoi je suis d'ailleurs doublement impressionné, parce que c'est une première et parce que ce sujet me passionne, et donc j'ai un grand plaisir à vous en parler ce soir. Voilà, je vous propose de commencer avec un chant de Guilhem ou Guillaume de Poitiers, qui a été le premier troubadour connu, le premier dont on ait conservé des chants, 11 chants qui sont parvenus jusqu'à nous. Et ce chant, là, s'adresse à sa maîtresse, qu'il nomme dans le chant « Bon voisin, Benvési ». C'est dans cette poésie un signal, un signe, un signal, un nom secret que l'auteur donne à sa maîtresse, afin qu'elle seule se reconnaisse et que les autres ne puissent pas savoir de qui il s'agit. Mais on verra plus tard que, concernant Guillaume de Poitiers, il ne faisait aucun secret de l'identité de sa maîtresse. À la douceur du temps nouveau, les bois feuillissent. Comme on était tout au début, je vous propose de reprendre. J'en profite pour préciser que je vous donne ce chant-là. Je l'ai oublié, donc cette venue me l'aura rappelé. Je vous donne ce chant dans une traduction que j'ai réalisée en vers, en français, en respectant autant que possible la métrique et la cohérence des rimes. C'est un sujet dont je parlerai plutôt dans la troisième séance, mais il est important que vous le sachiez déjà. Donc c'est des traductions que vous allez entendre au cours de ces trois séances. À la douceur du temps nouveau, les bois feuillissent et les oiseaux chantent, chacun en leur latin, selon les vers du nouveau chant. Il est donc temps de jouir enfin de ce que l'on désire tant. De là où tout m'est bon et beau, ne vient de l'être avec son sceau. Aussi mon cœur ne dort en rien. Je n'ose faire un pas avant, que je ne sache si la fin sera celle que j'aime tant. Car notre amour vient du matin, comme la branche d'aubépin qui est sur l'arbre, tout tremblant la nuit, au froid, dans bien trop d'eau. Au matin, le soleil s'épand par feuilles vertes et rameaux. Encore me souviens du matin où la guerre entre nous prit fin. Elle me fit un don si grand, amour entier et son anneau. Dieu fasse que je vive tant que j'ai les mains sous son manteau. Peu me chauffe l'étrange latin pour que je quitte bon voisin. Je sais trop comment vont paroles et se répandent vilains mots. Quand d'autres d'amour s'affolent, nous y avons viande et couteau. Voilà, je vous propose de commencer maintenant avec quelques mots sur moi-même, une façon, vous le verrez aussi, de voir comment j'ai abordé ce sujet, puisque c'est en fait en comédien que j'ai découvert la poésie des troubadours, avec donc tout de suite une envie d'en faire un jeu, une production de spectacle. Et là, j'ai vécu une grande surprise, une grande découverte, de cette poésie qui, me semble, était la poésie que j'attendais depuis très longtemps, parce que c'est une poésie qui est active. Elle est active, cette poésie, parce qu'elle est productrice de sens et parce qu'elle s'attache à transmettre ce sens. Étant donné le succès qu'ont eu les troubadours à leur époque, on peut imaginer que l'audience, effectivement, était grande pour ces chants. La période dont on va parler s'étend, pour ce qui m'intéresse le plus hautement, de la fin du XIe siècle jusqu'au cours du XIIIe siècle, avec différents événements, différents mouvements de la société qui vont faire qu'au fur et à mesure, eh bien, elle va perdre un petit peu de sa superbe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette période, donc grosso modo le XIIe siècle, dont je dirais que c'est une période qui se distingue d'une manière générale par deux mots, je dirais foi et humilité, comparé avec ce qui se passe dans cette poésie, où les mots clés seraient peut-être plutôt la joie et l'amour, mais peut-être la joie plus hautement même que l'amour. Donc j'ai découvert cette poésie et je me suis mis à l'étudier et constatant qu'il y avait, à mon avis, des failles dans les traductions qui nous en étaient données, eh bien je me suis mis à produire moi-même mes propres traductions. Et de plus en plus intrigué par cette poésie, je me suis mis à étudier la période de l'histoire dans cette région où les troubadours ont composé ces chants. Et au fur et à mesure de cette étude, eh bien, je me rendais compte que la vision que j'en avais de cette période de l'histoire s'éloignait de plus en plus de celle que j'avais gardée de l'enseignement scolaire. Alors, à tort ou à raison, mais j'ai moi conservé de l'enseignement scolaire une vision de l'histoire qui passe avant tout par les pouvoirs et leur transmission. L'étude du système politique venant ensuite, la vie sociale encore après, et la vie culturelle et artistique restant souvent peu abordée. Et en étudiant cette poésie, bien, finalement, je suis complètement sorti de la vision du Moyen-Âge que j'avais comme étant château fort et chevalier. Et aujourd'hui, je peux dire que je me suis rapproché de cette vision de château fort et de chevalier, mais c'est l'imaginaire que je m'en fais qui, lui, a complètement changé. Ah oui, quand je tape, peut-être que ça te... Bon. Je fais beaucoup de mouvements, c'est une habitude. En présentant le Moyen-Âge avant tout à travers ces images de château fort et de chevalier, eh bien, on en a finalement avant tout une image guerrière, puisque qu'est-ce que c'est qu'un château fort? C'est pour se protéger de la guerre que les autres vont nous faire, et qu'est-ce que c'est que des chevaliers? C'est aussi pour se protéger, et éventuellement, pour aller envahir les autres. Or, en fait, au fur et à mesure de mon étude, je me suis rendu compte que ces châteaux forts représentaient bien autre chose que des grandes guerres et des fortifications pour faire face à de grandes invasions, mais au contraire, dans la période qui m'intéresse, il s'agissait d'un morcellement du pouvoir qui demandait des fortifications de plus en plus locales, et de plus en plus j'ai observé qu'effectivement cette période de l'histoire est peut-être la période de notre histoire où il y a eu le moins de guerres. Dans cette poésie m'a passionné aussi parce qu'elle est active dans un autre sens encore, dans le sens où elle est créatrice de langage. C'est une poésie qui s'est montrée très novatrice. C'est en fait la première poésie qui nous soit parvenue en langue romane. Jusque-là, la langue utilisée pour la poésie, pour ce qui était en tout cas mis par écrit et qui a été conservé, était le latin. Et cette poésie a largement profité de ce nouveau champ de langage, de cette nouvelle langue à investir pour innover dans tous les sens où la poésie pouvait innover. Souvent, les auteurs de cette poésie, ceux qu'on nomme les troubadours, s'appellent eux des artisans et ils sortent leurs chansons de leur atelier où les mots ont été rabotés, polis. Donc il y a un long travail d'affinement des mots. Des mots et des sons, parce que cette écriture poétique est aussi une écriture médiévale, musicale, excusez-moi. Je pense déjà à ce que je vais vous dire juste après. Et donc, investissant cette nouvelle étude, celle de la passion qu'ont pu donner des auteurs à cette époque-là pour la poésie, pour le chant, eh bien, je me suis intéressé plus largement à la place du chant dans toute notre tradition ancienne. Et là, c'est vraiment, du coup, toute l'évolution de notre société et de notre civilisation qui m'est apparue différemment. Donc j'ai employé plusieurs fois différemment, et effectivement, je vais vous proposer, à travers ces chants des troubadours, une vision différente de l'histoire, de celle en tout cas, que, comme je le disais, qu'à tort ou à raison, j'ai retenue. Une histoire qui soit moins axée autour de l'histoire des pouvoirs, mais plus autour de l'histoire des savoirs, finalement. Et pour aborder cette histoire différemment, dès lors, ça ne va pas vous faciliter la vie, mais je vais le faire, il y a des mots que je vais ôter quasiment totalement de mon vocabulaire, comme Moyen-Âge, qui n'évoque absolument pas la période, en tout cas pas cette période-là, comme Troubadour, qui laisse à penser dans la plupart des esprits qu'il s'agirait là d'un métier, d'une charge, d'un statut. Or, Troubadour n'est pas du tout ça. Et puis, pour des raisons de compréhension de ce que je vais vous expliquer des mouvements pendant la période, je ne veux pas utiliser non plus le mot « cathare ». S'il y a une hérésie, c'est d'utiliser ce mot pour parler d'un mouvement qui, à l'origine, à mon avis, était tout sauf une hérésie. Donc ce soir, je vais essayer, toujours à travers des chants de troubadours et puis quelques vidas. Les vidas, ce sont des récits que l'on trouve dans les chansonniers où ces chants de troubadours ont été compilés. Ces récits sont plus ou moins fictifs. Parfois, on sent bien que l'auteur du récit ne connaissait pas grand-chose à la vie de tel ou tel auteur, donc les chants vont suivre, et laisse aller son imagination, parfois à partir d'un vers d'un de ces chants, mais en même temps, ces récits nous donnent beaucoup de choses sur l'imaginaire, sur la morale, sur la spiritualité qui avait lieu à cette époque-là. Et donc, à travers ces chants de troubadour, ce soir, je vais essayer de vous donner cette image de cette période-là, de notre histoire, dans cette région, telle qu'elle m'est parvenue. Et donc, certainement, je vais parler là avec un peu moins de passion que la semaine prochaine, parce que finalement, c'est pas l'entrée qui m'intéresse le plus, mais elle est nécessaire pour planter un peu le décor. Et je parlerai certainement avec encore plus de passion la troisième semaine, où mon sujet sera essentiellement sur la poésie elle-même, puisque la semaine prochaine, il s'agira encore de questions de morale et de spiritualité comparées à l'idéal courtois tel qu'il s'est développé dans les chants des troubadours. Voilà, avant de rentrer vraiment dans le sujet, je voulais encore donner un mot pour relier ces conférences, ces cours au sujet de l'année de l'Université populaire. En tout cas, tel qu'il m'est arrivé en premier lieu, hein, parce que la première expression de ce sujet, ça avait été une forme de questionnement des relations entre ce qui est limité et ce qui est illimité. Et tout de suite, ça m'a touché énormément, parce que j'avais l'impression que là, ce questionnement, c'était exactement celui que je me posais et ce que je vais avoir le plus de mal, d'ailleurs, à définir dans ma troisième séance. Puisque finalement, il s'agit là de chants, il s'agit de poésie, il s'agit donc de mots, et je vous le disais, d'auteurs qui rabotent, qui polissent les mots, donc qui, d'une certaine manière, les délimitent, hein, les façonnent. Et plus ces mots sont délimités, eh bien finalement, plus leur pouvoir de suggestion est infini. Puisque, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, les mots deviennent alors véritablement un chant qui, à mon avis, parle aux imaginaires avant de parler au sens. Puis une autre idée, peut-être quelqu'un parmi vous pourra m'aider, m'a semblé me relier à ce sujet de limiter et d'illimiter. Je disais que peut-être quelqu'un pourra m'aider parce que je vais vous parler d'une petite phrase que j'ai lue une fois à la volée, dont je ne me suis pas rendu compte à quel point elle allait m'influencer par la suite, et donc je n'ai pas retenu son auteur. Je ne sais même plus exactement comment se stipulait cette phrase. Elle disait, grosso modo, que l'humanité est dans un mouvement alternatif constant entre chercher ce qui sépare et chercher ce qui rassemble. Alors il me semble que tout un chacun, dans notre propre quête d'identité, nous faisons constamment ce mouvement. Qu'est-ce qui me particularise vis-à-vis des autres et qu'est-ce qui fait que je vais aussi pouvoir me sentir appartenir à un groupe. Et finalement, c'est un petit peu la même chose qui se joue aussi dans cette période de l'histoire, puisque, d'après ce que je vous disais, c'est toujours ça qui se joue. Or, cette période de l'histoire est une période où les pouvoirs sont très morcelés. Et si je suis cette phrase, cette idée, si les pouvoirs sont morcelés à ce moment-là, ce n'est peut-être pas une histoire, une tranche de l'histoire qu'il faut observer avec cette particularité-là, mais plutôt, peut-être, avec cette autre, si les pouvoirs sont morcelés, c'est qu'on va vers une union. Donc le mouvement, à ce moment-là, est peut-être plutôt vers l'union. C'est une période de pouvoir morcelé, vous le savez sans doute, depuis l'élection au trône de roi des Francs, duc Capet, en 987. La dernière réussite d'établissement d'un empire étant celle de Charlemagne, et ensuite donc cet empire s'étant effondré, eh bien, les différents comtes, ducs, barons, se sont organisés entre eux, on pourrait dire, vite, pour permettre à ce Hugues Capet, issu d'une lignée de Robertiens, d'accéder au trône, parce que justement, il n'avait pas tant de pouvoir et que les autres pourraient, à ce moment-là, peut-être agir de façon plus autonome. En tout cas, voilà, depuis la fin du Xe siècle, eh bien, on a cette situation avec des pouvoirs très morcelés et une situation météo qui semble avoir été aussi assez particulière à l'époque. Tout ce qu'on a pu en étudier et en comprendre semble nous montrer que pour le moins, la météo, à cette période, était favorable, assez tempérée, ce qui était évidemment bon pour les cultures, qui donc produisait bien, ce qui était renforcé par les innovations techniques, parce que c'est aussi une période de grandes innovations, mais quelle période ne l'est pas. En tout cas, donc, voilà des cultures qui deviennent de plus en plus productives et qui permettent donc d'avoir des surplus de production. Et grâce à l'usage du denier qui a été introduit justement par Charlemagne un peu plus tôt, enfin beaucoup plus tôt, eh bien on va pouvoir vendre ces surplus et participer de plus en plus activement du commerce. Alors qui fait cela? Évidemment des paysans qui de plus en plus souvent sont des paysans libres. C'est une période aussi où l'esclavagisme tend à disparaître et on trouve de plus en plus de paysans libres. Parfois, ils redeviennent des serfs parce qu'ils sont obligés de revendre leurs terres à un seigneur, mais parfois aussi, ils restent libres. Et ces paysans, de plus en plus souvent, s'établissent dans des fermes isolées, car après tout, le temps des grandes invasions a momentanément cessé. Ce qu'on appelait alors les Sarrasins se sont établis en Espagne, et puis ce qu'on appelait les Normands ou les Vikings, ces pillards, eux se sont peu à peu intégrés à la société franque. Donc il n'y a plus tant de risques d'invasion et on peut s'établir dans des fermes isolées, et puis il n'y a plus tant de risques non plus de famine. Hein, les dernières famines importante date du deuxième tiers du XIe siècle, mais à la fin du XIe siècle, semble sortir de la crainte d'une famine. Alors la situation politique à cette époque, je vous disais que c'était des pouvoirs morcelés, il y avait bien le Saint-Empire germanique qui s'étendait sur de vastes frontières, mais pour ce qui est de notre sol à nous, de ma foi, le roi des Francs, à la fin du XIe siècle, Philippe, il avait un territoire à peu près autour de Paris et de l'Orléanais, et il avait maints vassaux qui étaient plus puissants, plus riches que lui, dont justement le duc d'Aquitaine, le comte de Poitiers, duc d'Aquitaine, qui à ce moment-là était aussi duc de Gascogne, et qui était ce duc d'Aquitaine, eh bien c'était Guillaume de Poitiers, le premier troubadour connu. Alors ce pouvoir était d'autant plus morcelé, et se morcelait d'autant plus encore, qu'à cette époque, le droit d'aînesse n'était pas encore de mise, et même quand il sera de mise, il ne sera pas tout de suite partout, et donc les héritages sont partagés entre les différents héritiers, ici ou là, garçons et filles. Évidemment, ces successions font l'objet de disputes, puisque souvent, parmi ces héritiers, il y en a qui sont plus ou moins valables, issus de différents mariages, ou même issus hors mariage des bâtards. Et donc, parfois, il y a des fortes disputes à l'occasion des successions. Et évidemment, ces disputes imputent le fait de créer des partis, d'avoir des partisans. Et pour avoir des partisans, ma foi, il faut se montrer large et généreux. Et là, c'est la richesse qui, à son tour, se divise. Et ce qui permet de plus en plus à des petits seigneurs de voir leur pouvoir augmenter. Et c'est ainsi que, je vous disais, on a des fermes isolées qui apparaissent, et on a aussi des mottes castrales de plus en plus, des fortifications rudimentaires, et parfois même des petits châteaux qui s'implantent un petit peu partout, puisque ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est de défendre ces terres, ces cultures et ces paysans contre les rafles et les pillages opérés par les voisins. C'est donc une question de protection rapprochée qu'il s'agit à laquelle il s'agit de répondre, et non plus de dangers venus de loin. Et puis il y a encore un autre phénomène qui participe de ce morcellement des pouvoirs, c'est que si la population s'accroît dans les campagnes, elle s'accroît aussi dans les villes, qui, par ces temps assez calmes, assez paisibles, attirent de plus en plus de nobles peu riches, d'artisans, de paysans qui viennent là se regrouper, et qui parfois se regroupent même en communes et arrivent à s'émanciper plus ou moins du pouvoir seigneurial. Et il y a donc aussi un pouvoir des villes sur notre sol qui s'affermit. Un autre pouvoir, évidemment, qui a aussi d'autres caractères, mais dont certains se recoupent avec ceux du pouvoir temporel, c'est évidemment le pouvoir de l'Église romaine. Alors, il y a une période, on a beaucoup parlé de millénarisme, de crainte de la fin du millénaire, et de crainte de la fin des mondes, du monde. Aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que ça a été bien, bien exagéré et que cette crainte ne semble pas avoir été très forte à l'époque. Mais ça n'indique pas moins que ces textes qui nous ont fait penser ainsi au départ, ça n'indique pas moins qu'il y a eu un mouvement de ferveur religieuse à l'arrivée et après le début de ce XIe siècle, qui a certainement été renforcé par le besoin de l'Église de se réaffirmer, parce qu'effectivement, là, se trouvait avec un morcellement des pouvoirs, donc avec des seigneurs qui, dans leur coin, n'avaient pas tant à faire de l'influence de l'Église, et qui dans leur coin, ou même qui dans leur vaste possession, parce que ça a été le cas du Saint-Empire germanique, qui se mettent à revendiquer ou à s'attribuer le droit d'investir les évêques et donc de prendre une partie de son pouvoir au pouvoir spirituel et de le ramener au pouvoir temporel. Et il semble aussi qu'à cette époque, le clergé et les moines aient un peu faibli dans leur rigueur religieuse et que ceci n'ait pas aidé l'Église alors à se maintenir autant qu'elle le voulait. Et c'est alors qu'on a vu apparaître des ordres religieux nouveaux, hein, Cluny, Cîteaux, puis des ordres mendiants. Et aussi apparaître ce courant de pensée depuis le 9e siècle et tout au cours, depuis le 10e siècle et au cours du 11e, qu'on a appelé la paix de Dieu, initiée par l'Église, mais relayée par main Seigneur, pour essayer de. Ce mouvement avait pour but d'essayer de maintenir un petit peu la tranquillité entre ces seigneurs locaux qui ne manquaient pas, le printemps venu, de venir s'asticoter un petit peu pour justement revendiquer leurs droits sur telle ou telle terre. Mais bon, ça c'est un regard d'ensemble. L'Église, depuis le IVe siècle, depuis l'Empire romain, l'Église romaine s'est imposée à ce qu'on a appelé donc, par la suite la chrétienté, ce qui n'empêche que les gens du peuple, les gens en général, n'ont pas adhéré massivement à un dogme catholique, loin de là, si tant est que d'ailleurs le dogme à cette époque-là ait eu tant d'importance, et ça aussi j'aurai l'occasion de revenir sur cette question. Alors ces autres croyances, eh bien, elles sont héritées des différentes populations qui ont traversé ces terres, donc de façon, enfin, dernièrement des Francs, mais avant vivaient sur ces terres des populations celtes, et on va voir que dans la poésie des troubadours, ben, ma foi, l'imagerie des mythes celtiques est bien présente. Et puis surtout, en dehors de toute question d'appartenance religieuse, c'est une période où l'ensemble des gens, je pense, parce qu'on a quand même quelques témoignages des petites gens, et ce grâce à la Sainte Inquisition qui a pris par écrit ces témoignages. Et dans ces témoignages de petites gens, comme dans beaucoup de textes de l'époque, on se rend compte que pour les gens de l'époque, la vie sur Terre est un passage, et que ce qui compte, c'est après. Et que donc, ce qui importe sur Terre, c'est de bien gagner son passage, c'est de laisser une belle marque. Il y a d'ailleurs, dans ces régions où les bons hommes, ces soi-disant hérétiques, vont se développer un peu plus tard, une forte croyance en la métempsychose, c'est-à-dire la transmission des âmes de corps en corps, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un corps humain, d'un corps animal ou d'un corps végétal. Donc voilà pour les pouvoirs en place, voilà un peu déjà pour des questions de la spiritualité à cette époque-là. Et puis, maintenant, je vais vous parler de l'essor d'une nouvelle classe sociale qui a fortement inspiré, imprimé la poésie des troubadours. Il s'agit de la chevalerie. La chevalerie qui s'était déjà imposée en tant que force guerrière, mais là, il ne s'agit plus, je vous le disais, de grands conflits. Il s'agit de petits conflits de voisinage, de querelles de succession, et là aussi les chevaliers ont leur place dans ces parties qu'ils vont défendre, et puis ils ont leur place dans les campagnes où il s'agit de défendre aussi ces petits domaines qui se sont créés, et parfois d'ailleurs des chevaliers sont eux-mêmes paysans réunis dans des maisons fortes et s'activent à l'agriculture. Surtout, ce qui va faire le succès de la chevalerie, finalement, c'est peut-être l'idéal courtois qu'ils vont fonder, qui va se retrouver dans les chants des troubadours. Et cet idéal courtois, peu à peu, va être adopté par toute la noblesse, bien au-delà de la seule chevalerie. Les chevaliers n'étant d'ailleurs pas toujours des nobles. Et puis d'ailleurs, le mot noble à cette époque-là ne signifiant pas encore ce qu'il va signifier un siècle plus tard ou deux siècles plus tard. Je vous propose de vous questionner vous-même. Posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire noble? Est-ce qu'on entend là quelque chose qui a à voir d'abord avec le lignage, le sang, ou avec la noblesse des comportements? À la période des troubadours, la question est tout à fait entremêlée, et je pense qu'on considère la noblesse avant tout comme étant celle du comportement, ces bons comportements étant très souvent réservés aux gens qui ont reçu une éducation, donc qui certainement sont issus de milieux plus ou moins riches, mais ce n'est pas toujours le cas. Parlons de savoir un petit peu maintenant, puisque c'est une période où on œuvre beaucoup à la traduction des textes grecs dans le sud de l'Italie, en Sicile, et des textes latins à la frontière arabe musulmane de l'Espagne. Et donc, ces textes viennent alimenter la pensée de l'époque, ces textes anciens, et notamment à travers un mouvement qui est la scolastique, qui est la comparaison de ces textes de philosophie avec la théologie telle qu'on pouvait la trouver dans la Vulgate. Et voilà donc qui apporte aussi un renouveau de transmission et de création de savoir. Et puis, je vous parlais tout à l'heure du mouvement communal. Donc les villes sont devenues des lieux de vie, de rassemblement plus importants, des lieux aussi de pouvoir, puisque ces communes se sont plus ou moins émancipées du pouvoir seigneurial. Et dans ces villes, de plus en plus, on trouve des écoles, et puis bientôt des universités qui viennent relayer les écoles monastiques, qui, elles, étaient un petit peu en perte de vitesse, de la même manière que je disais l'ensemble du clergé. Et donc, ces villes deviennent à leur tour des centres culturels importants. Tout ça pour vous exprimer donc cette période qui est faite à la fois d'une paix relative, d'une vie toujours relativement assez aisée, de bonne production, un accroissement de la population, des défrichements, des routes et des ponts qu'on améliore, des échanges qui sont favorisés. Et du coup, on n'est pas étonné de voir à cette période fleurir une poésie du renouveau. Vous l'aurez peut-être entendu dans le texte de Guillaume de Poitiers tout à l'heure, qui commence par « À la douceur du temps nouveau ». C'est un temps nouveau qui s'installe dans les imaginaires. Et d'ailleurs, le mot « jouvence » est très présent dans cette poésie. Cette poésie qui est une poésie du printemps, hein, puisque le printemps, c'est le moment du renouvellement. Et cette poésie va être portée par des jongleurs. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, un jongleur, c'est quelqu'un qui manipule des objets. Vous savez peut-être qu'à l'origine, c'est quelqu'un qui manipule des mots. Hein, jouglar en ancien provençal ou joculari en latin veulent dire jouer avec les mots, faire des jeux de mots. Et ces jongleurs, eh bien, bien souvent, ce sont des clercs. Des gens issus de l'école cléricale qui ont donc reçu un bon enseignement, et notamment des lettres, et qui vont donc porter les chants de cours en cours. Mais avant les premiers troubadours, on n'en sait finalement pas grand-chose. Sinon, et ça c'est, ça m'intéresse de vous en parler tout de suite, que parmi ces clercs émancipés du clergé, ces clercs à leur propre compte, devenus pour certains jongleurs, eh bien on en trouve d'autres qu'on va appeler les Goliards, qui sont les auteurs de ces Carmina Burana, hein, ces recueils de chansons érotiques, de chansons à boire, de chansons profanes, qui ont été écrites au XIIe, XIIIe siècle, mais on peut imaginer que déjà, dans cette ambiance telle que je la ressens aujourd'hui de l'époque, ces Goliards étaient bien présents. Goliard, le mot a plusieurs origines. Goliath, qui représente le mâle, la goule, goulûment, hein, ceux qui mangent abondamment, et galliard, se moquer, tromper, rusé. Or, ce monde des clercs, des jongleurs et des goliards, on le trouve où ? On le trouve dans les tavernes. Et dans les tavernes, à cette époque-là, effectivement, il semble qu'on parle beaucoup, qu'on joue beaucoup et qu'on ruse beaucoup. On joue au jeu de dés, notamment, en pariant son argent. Et ça peut avoir des conséquences importantes, mais ça, cette première conséquence de motiver la ruse, la tromperie, les mauvais tours. Je vous dis ça parce que le jeu, l'idée de jouer, est centrale pour toute cette période, non seulement dans la poésie des troubadours, mais pour toute cette période, l'idée de jeu est centrale, en tout cas pour ce qui concerne la région des troubadours, qui est à peu près le sud-ouest de la France actuelle, pour leur départ, puis après il va y avoir une extension. Goliard, galliard, guillet. Je ne sais pas si vous connaissez ce vieux mot. Tel croit guillet, guillot, que guillot, guille. La guille. Alors, on a là un mot qui est aussi entre un sens de naïveté. Un guillot, c'est un naïf. Mais c'est un naïf qui fait peut-être passer pour naïf, pour pouvoir mieux ruser derrière. Guillaume, un Guilhem, un Wilhelm. Wilhelm, ville, la volonté, Helm, le home, comme si c'était un home de volonté. On peut reconnaître là aussi, dans cette autre forme du prénom Guillaume, l'idée d'un têtu. On aurait là donc un têtu qui se fait passer pour un naïf pour mieux tromper l'autre. Et d'ailleurs, l'idée de l'arroseur arrosé est constante dans les écrits de cette époque et dans l'humour de cette époque. Donc dans cette taverne, on trouve ces jongleurs, des clercs, des lettrés, qui s'adonnent à l'art de galliard, de guiller, de jouer et de tromper autrui. Et ça, c'est une chose qui m'a marqué dans cette étude des troubadours, c'est ces jouglars, ces jongleurs. Autant, je vous disais, troubadour, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une charge, ce n'est pas un statut, ce n'est pas quelque chose qui définit quelqu'un. Autant jongleur, jouglars, il me semble que ça définit bien plus que l'idée d'aller chanter les chants des troubadours à l'époque. Ça définit tout un mode de vie de ces jongleurs qui vont donc aller participer à des cours fastueuses pour des mariages notamment, et qui à d'autres moments vont se retrouver avec le peuple dans les tavernes à jouer. Et ce peuple, bien, c'est aussi des marchands itinérants, ce sont aussi des mercenaires, ce sont aussi des filles de joie. Mot que je suis bien embêté d'utiliser, filles de joie. Putain serait peut-être mieux, voire pire pour les esprits d'aujourd'hui. Prostituée, certainement pas. Je ne sais pas s'il y a des occitans dans la salle, moi j'ai aucune prononciation de l'occitan, mais grosso modo c'est soudadera, comme soudard, quelqu'un qui reçoit la solde. Donc effectivement il y a l'idée de prostitution, mais quand on observe ça un petit peu plus précisément, on n'a pas du tout l'image de la pépérie patéticienne en bas dans la rue qui attend le client pour lui donner contre quelques monnaies, quelques heures de plaisir. Non, là on a des filles de joie qui certainement sont, sont plaisantes par leur corps, mais aussi par leur esprit, par leur compagnie, et qui vivent entretenues par un ou plusieurs. Ça peut être par exemple un berger qui vient passer une partie de sa saison ici, et qui va rester 3 mois chez sa bonne amie, sa fille de joie, qui va couvrir à l'occasion de présents. En tout cas, donc, c'est filles de joie, et puis ces danseuses, la première apparition du mot jongleuse dans notre français, de l'écriture moderne, désigne une danseuse entourée de musiciens. Je vous propose maintenant d'entendre 3 vidas. Je vous disais, les vidas, c'est ces récits fictifs qu'on trouve dans les chansonniers et les troubadours pour présenter tel ou tel troubadour. Avant qu'on puisse lire ces chants. 3 vidas, parce qu'il s'agit soit de quelqu'un qui était jongleur et est devenu troubadour, soit de quelqu'un qui était clerc et est devenu jongleur puis troubadour, et en tout cas, les 3 étaient plutôt du côté des ribauds et des taverniers. Commencer avec la vida de Guilhem Figuera. Guilhem Figuera était de Toulouse. Fils d'un tailleur, il fut tailleur lui-même. Et quand les Français occupèrent Toulouse, il s'en alla en Lombardie. Il savait bien trouver et chanter, et devint jongleur parmi les citadins. Ce n'était pas un homme qui savait s'introduire et demeurer chez les barons et les gens de qualité, mais il se fit très bien accueillir par les ribauds, les putains, les aubergistes et les taverniers. Et s'il voyait venir à lui un homme de cour, il en était triste et malheureux, et s'efforçait de le rabaisser, d'exalter les ribauds. Voilà qui nous donne une première idée de qui pouvait être un jongleur qui est devenu troubadour à cette époque. On voit là une seconde avec la vida de Gossem Fédit. Gossem Fédit était un bourg qui a pour nom Userche, dans l'évêché de Limousin. Il était fils d'un bourgeois, il chantait pis que nul au monde, mais il composait de bonnes mélodies et de bons vers. Et il se fit jongleur car il avait perdu tout son avoir au jeu de dés. C'était un homme de grande taille, qui mangeait comme un glouton et buvait beaucoup. C'est pourquoi il devint gros, outre mesure. Pendant longtemps, il fut très malheureux, ne recevant ni dons ni honneurs, et il alla à pied de par le monde durant plus de 20 ans, car ni lui ni ses chansons n'étaient ni estimées ni appréciées. Il épousa une prostituée, qui l'emmena longtemps avec lui de cour en cour, et qui s'appelait Guilhelma la Nonne. Elle était très belle et très instruite. Mais elle devint aussi grosse et grasse que lui. Elle était d'un riche bourg qui a pour nom Alès, dans la Marche de Provence, dans la seigneurie de Bernard d'Anduze. Puis, monsieur le marquis Boniface de Montferrat donna des biens, des vêtements à Gossem et témoigna de son estime pour lui et ses chansons. Boniface de Montferrat, qui a été donc un marquis qui a accueilli beaucoup de troubadours à sa cour. J'en reparlerai, je pense, dans la deuxième séance en parlant de Rimbaud de Vaqueras. Et voici une troisième vida, la vida de Gobert de Poissybeau. Le moine Gobert de Poissybeau était un noble de l'évêché de Limoges, fils d'un châtelain de Poissybeau. Enfant, il entra dans les ordres dans un monastère qui a pour nom Saint-Lunard. Il devint lettré et sut bien chanter et trouver. Par désir d'une femme, il quitta le monastère et vint à celui chez qui tous allaient, qui cherchaient honneur et bienfait pour leur courtoisie, Savaric de Mauléon. Et Savaric lui donna l'équipement de jongleur, des vêtements et des chevaux. Ainsi, il alla à travers les cours et composa de bonnes chansons. Il tomba amoureux d'une demoiselle noble et belle et faisait ses chansons sur elle. Mais elle ne voulait pas l'aimer s'il ne se faisait chevalier et s'il ne la prenait pas pour épouse. Alors, il raconta à Savaric comment la demoiselle le refusait. Savaric le fit donc chevalier et lui donna terre et rente. Et il prit la demoiselle pour épouse et lui fit grand honneur. Et il advint que Gobert partit en Espagne et la demoiselle resta seule. Or, un chevalier d'Angleterre s'est pris d'elle. Il fit, et lui dit tant, qu'il réussit à l'emmener, et il la garda longtemps comme maîtresse. Puis il l'abandonna d'une façon cruelle, et lorsque Gobert rentra d'Espagne, il logea une nuit dans la ville où elle était, et quand vint le soir, il sortit par désir d'une femme, il entra dans la maison d'une pauvresse, où il avait entendu dire qu'il y avait une très belle demoiselle. Et il y trouva son épouse. Quand il la vit et qu'elle le vit, ils éprouvèrent une grande douleur et une grande honte. Il resta avec elle cette nuit, et le lendemain, il partit et l'emmena dans un couvent où il la fit entrer. Et à cause de cette douleur, il perdit toute inspiration et ne chanta plus. Quelques petites notes. Donc Savary de Mauléon lui a donné l'équipement d'un jongleur, et effectivement, ça arrivait qu'un seigneur envers un jongleur, et non pas envers un troubadour, hein, je viendrai au fur et à mesure sur la distinction entre les deux, qui n'est pas une question de personne, hein, qui est une question d'activité. On peut être troubadour et jongleur, mais l'un est un métier, l'autre non. Donc il lui donne l'équipement d'un jongleur, on peut imaginer que ce sont des vêtements qui sont comme les siens. C'est-à-dire qu'il arrivait qu'un seigneur dote un jongleur des mêmes vêtements que les siens, ce qui est un peu une façon de dire c'est la prolongation de moi-même. Peut-être que d'ailleurs ça intervient dans le fait que certains se disent que ceux qui sont nommés comme étant les auteurs ne sont pas les auteurs et qu'il en aurait d'autres derrière. Parce qu'on veut toujours penser que ces gens qui avaient des grands pouvoirs avaient déjà bien suffisamment comme ça, et que si en plus ils avaient un grand talent, c'était peut-être un peu trop. Enfin, moi je suis convaincu que Guillaume de Poitiers est bien l'auteur de ces chants, ce qui est remis en question par certains. Il lui donne donc un équipement de jongleur, et puis il lui donne des chevaux. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça représente comme valeur, on va dire monétaire à l'époque, un cheval. Aujourd'hui, ceux qui cherchent à le retranscrire parlent de Porsche, je ne sais pas quoi, là, les plus chers. Hein, donc, voilà, ce moine Gobert de Poissy-Beau, d'après Savida, il suffit de prétendre avoir besoin de ça pour régler une affaire amoureuse, on le fait chevalier, on lui donne terre errante, on lui donne des beaux vêtements et plusieurs Porsches. Alors, on a parlé, je vous ai présenté cette séance avec un texte de Guillaume d'Aquitaine. Je vous ai dit, c'est le premier troubadour connu. C'est aussi le membre d'une grande lignée qui va avoir une importance particulière dans toute cette période. Et donc, dans ma marche d'approche pour essayer de vous amener à la poésie des troubadours, je me dois de vous parler un peu de cette lignée des ducs d'Aquitaine. Vous voyez à peu près l'Aquitaine à l'époque, il y a eu le royaume d'Aquitaine, puis c'est à peu près, Guillaume le troubadour était duc, ça représentait plus du quart de la France actuelle. Quand je vous lisais, le roi des Francs à l'époque avait quelque chose entre Paris et Orléans. Et parmi ses ancêtres, on trouve un fier à bras, on trouve un tête d'étoupe. Vous savez ce que c'est que les toupes, hein, ce qui permet de faire des gros pétards à cette époque-là. Guillaume, tête d'étoupe, ou fier à bras. On a une idée un petit peu de son ascendance, et on sait effectivement que ce Guillaume de Poitiers, donc né à la fin du XIe siècle, en 1071, était un fort caractère. Il a été plusieurs fois excommunié, et ma foi, il semble qu'il en faisait en toute situation selon son bon vouloir. Mais je vais commencer par vous lire sa vida, qui est assez courte, mais qui dit un petit peu quel était cet homme. Le comte de Poitiers fut un des hommes les plus courtois au monde, un des plus grands tricheurs de dames, et un très bon chevalier aux armes et un grand séducteur. Et il sut bien trouver et chanter. Il voyagea longtemps par le monde afin de tromper les dames. Il eut un fils qui eut pour épouse la duchesse de Normandie, dont il eut une fille qui fut mariée au roi Henri d'Angleterre et fut mère du jeune roi de Richard et du comte Geoffrey de Bretagne. Alors là, en l'occurrence, le rédacteur de la Vida, a priori, s'est trompé. On va revenir sur le lignage. Mais il y a bien ces personnes-là. Hein, il y a bien la duchesse Aliénor d'Aquitaine, qui est sa petite-fille, et qui s'est bien mariée à Henri Plantagenet, qui alors était devenu, allait devenir très peu après roi d'Angleterre, et qui a été, tous les deux ont été parents d'Henri Courmantel, le jeune roi, de Richard et du comte Geoffrey de Bretagne, que moi je ne connais pas. Voilà donc la vida de ce comte de Poitiers, un grand tricheur de dames. 11 chants nous sont parvenus de lui, et si on ne peut pas éviter de parler de Guillaume de Poitiers tout de suite quand on aborde les troubadours, c'est pas seulement parce qu'il est le premier, c'est parce que ces 11 chants sont d'une qualité en poésie tout à fait extraordinaire, qui a marqué toute la période, et pourtant, la plupart de ces chants sont des chants avec des sujets assez grivois, voire obscènes. Je vous propose de vous évoquer un sujet d'un de ces chants, ce qui me permettra de vous parler un petit peu d'étymologie, parce que c'est un sujet important en filigrane. Vous savez ce que c'est qu'un con ? Conin, en latin le lapin, parce que en fait il y a tout un temps de notre histoire où les chats n'étaient pas très bien vus, ou en tout cas peu communs dans les chaumières. Et donc aujourd'hui on dit la chatte, mais à l'époque on se référait à la douceur du poil du lapin. Le conin, le con. Et voilà un chant de Guillaume de Poitiers qui par ailleurs est très intéressant par sa forme. Qui nous parle des cons rois, hein, des cons dont on fait grand cas, et qui nous parle de la taille. Et alors là, ça m'étonne, parce que j'ai jamais lu quoi que ce soit à ce propos-là, et pourtant, ça m'apparaît d'une grande évidence, d'autant plus que cette poésie, qui est très incisive et qui connaît peu les répétitions, qui ne connaît pas le refrain, ou très peu le refrain, comme on va le connaître plus tard dans la poésie des Trouvères, eh bien, il répète le dernier vers où il parle de la taille. La taille, la taille-là. Le fait de tailler, d'enlever un bien à autrui, hein, c'est le nom d'un impôt. Et voilà donc ce comte de Poitiers qui se plaint des cons qui sont trop gardés. Il trouve qu'un con trop gardé, c'est un peu comme un vivier sans poisson. Il s'étonne de ce que Dieu... et donner des indications dans ce sens-là, il comprend bien que la plupart des choses, quand on en use, elles s'en trouvent usées. Mais il considère que pour le con, c'est bien différent. Selon lui, le con, plus on en use, plus il se bonifie. Et si on ne veut pas croire ou comprendre ce qu'il dit, il propose d'aller voir les bois, ses bois. On lui taille ses bois. C'est une valeur importante à l'époque, le bois. Mais lui, il dit rien. Parce que qu'est-ce qu'il constate ensuite ? Plus on les lui taille, mieux ça repousse. Et il conclut donc qu'on a tort de se plaindre de la taille, puisqu'elle profite à tout le monde. Un Guillaume, voilà un Guillaume de grand art, ce Guillaume de Poitiers. 11 chants, la plupart ont ce genre de teneur. Dans un autre, il parle de ces deux chevaux qui ne s'entendent pas et avec lesquels il ne peut pas sortir tous les deux en même temps. Et on comprend... à la fin du chant, qu'il s'agit en fait de ces deux maîtresses du moment. Dans un autre chant, il est en train de s'aventurer dans ces bois de son Limousin, et là, il rencontre deux dames de deux de ses voisins, et il se fait passer pour un débile ou un muet, en tout cas, quelqu'un qui ne peut pas articuler correctement les mots, et elles se disent, tant mieux, on va passer du bon temps avec lui. Et elles ont tout de même un doute après l'avoir amené chez elles auprès d'un bon feu avec bien de quoi manger. Et elles vont trouver leur chat qu'elles attrapent par la queue pour qu'il le griffe le plus fortement possible dans son dos. Et lui n'articule aucun mot. Elle conclut donc qu'il est bien muet. Oula, je viens de voir l'heure. Et lui conclut son chant en disant qu'il les a foutus 188 fois et qu'il a failli en perdre ses courroies et son harnois. Toujours très bien tourné, ces chants. Et puis ce chant que je vous ai dit au tout début, qui a aussi quelques connotations grivoises, mais très légères, et qui est d'une grande douceur et d'une grande habileté dans l'écriture. Et puis un chant très touchant qu'il écrit au moment où il sent qu'il va passer le pouvoir à son fils et quitter une vie faite de vers et de zibeline. Et puis surtout, un vers de pur néant, un vers de Dreit Niens, dont je parlerai plus particulièrement à la troisième séance, un vers de pur néant sur un sujet qui n'est rien, un vers sans sujet, un chant qui n'est que pour le chant lui-même. Et c'est très étonnant de voir dans ces 11 chants tout de suite apparaître ce vers de pur néant, parce que ça va être un sujet de développement pour les troubadours à venir. Donc je viens de voir qu'il me restait plus de temps quasiment, j'ai encore pas mal de choses à vous dire normalement aujourd'hui, je vais essayer d'avancer, mais surtout de vous dire des vers de troubadours. À part le chant que je vous ai donné au départ, pas de kansu aujourd'hui, pas de chant d'amour, ce sera plutôt le sujet de la prochaine séance, plutôt des sirventes, des chants moraux, politiques ou sur des questions de spiritualité. Mais là, tout de suite, je voulais vous parler de la guerre en ce temps-là. Je vous ai dit au départ, sortant de la scolarité, je me représentais le Moyen-Âge comme tout un chacun, château fort et chevalier, ça représente la guerre, et finalement je me rends compte qu'on a affaire à là une période où il n'y a quasiment pas de guerre, simplement des conflits de voisinage ou des querelles de succession. Alors pourquoi on parle tant de la guerre? Eh bien, je vais vous donner un texte de Bertrand de Born, qui était un ami de Richard Cœur de Lion, qui lui a d'ailleurs donné ce surnom, lui, Bertrand de Born, a donné ce surnom à Richard de Cœur de Lion, et puis je vous en parlerai ensuite. Là, on est maintenant à peu près à la fin du XIIe siècle. Guet temps de Pâques. Excusez-moi, je vous précise une petite chose. À la fin de beaucoup de chants de troubadours, il y a ce qu'on va appeler nous un envoi, une tornade, qui est une adresse du chant pour dire où ce chant doit aller. Et tout à l'heure, il y avait un signal pour la maîtresse Bon Voisin. Là, il y a un signal pour Richard que Bertrand de Born appelait Hoc et No, oui et non. Il le trouvait toujours un peu mou à prendre ses décisions, alors que Richard semblait quelqu'un déjà de fougueux, mais Bertrand de Born, lui, aurait souhaité qu'il soit plus fougueux encore. Gai temps de Pâques, quel bonheur de voir fleurir et reverdir. Tant me plaît la joyeuse humeur des oiseaux qui font retentir leur chant par le bocage. Il me plaît de voir sur les prés tentes et pavillons dressés. Et quelle belle image quand dans la plaine sont rangés chevaliers et chevaux armés. Il me plaît quand les éclaireurs font les gens et leurs biens s'enfuir. J'aime voir avec vigueur un rang armé les assaillir. Et cela m'encourage de voir des châteaux assiégés, des remparts rompus, effondrés, et l'armée au rivage, tout alentour clos de fossés et de solides pieux serrés. Il me plaît quand un seigneur est le premier à envahir, à cheval, bien armé, sans peur, ainsi fait les siens sans hardir, combattre avec courage. Dès que l'assaut sera lancé, tous devront alors s'engager avec joie, sans partage, car nul ne peut être prisé s'il n'a main coup pris et donné. Masse, épée, aume de couleur, écu tranché et dégarnir. Lorsque le combat fait fureur, on voit tous ses vassaux férir, courir libres, sauvages, les chevaux des morts, des blessés. Quand il sera dans la mêlée, chaque homme de parage n'aura que têtes à trancher, car mieux vaut mort que prisonnier. Je ne trouve aucune saveur à manger, ni boire ou dormir, si je l'entends crier en cœur « À l'assaut !» et partout hennir, chevaux folles sous l'ombrage, si je n'entends crier « Pitié !» ceux qui chutent dans les fossés et roulent sur l'herbage, si je ne vois les morts plantés d'un étendard bien enfoncé. Baron, mettez en gage châteaux, villes et cités, partez sur l'heure et guerroyez. Papiole, ce message à oui et non, va le porter, et dis que paix a trop duré. Alors j'entends que certains anticipent bien, parce qu'effectivement, on a l'habitude de parler de ce Bertrand de Born comme d'un chantre de la guerre. Moi, je trouve que c'est un poète d'un grand humour. Et c'est ce à quoi je vais essayer de vous sensibiliser. La guerre, elle est décrite là de façon violente, saignante. Mais qu'est-ce que c'est que la guerre à cette époque-là? On a parlé tout à l'heure de la paix de Dieu, s'ensuit la trêve de Dieu. Parfois, c'était une trêve qui allait du mercredi au lundi. On ne faisait pas la guerre ces jours-là. On ne faisait pas la guerre pendant certaines périodes de l'année. Carême, l'Avent, Noël, le temps pascal. Et puis, le service armé qu'un vassal devait à son seigneur, c'était 40 à 60 jours. Dans une période où justement les pouvoirs sont très morcelés. Donc il faut avoir une bonne motivation pour appeler ses vassaux pour aller faire la guerre à qui que ce soit. Ce qu'en sens Bertrand de Born, à mon avis, dans ce texte beaucoup plus, c'est l'image qu'il a du chevalier et du seigneur qui est le premier chevalier à la bataille. Ce qui change assez sensiblement les choses, hein, si celui qui mène la bataille est effectivement le premier à la bataille, il va peut-être un peu plus hésiter avant d'y aller. Et effectivement, souvent, quand c'est une bataille rangée qui se profile à l'époque, eh bien, ma foi, les deux qui sont devant descendent, vont se mettre à l'ombre d'un arbre et parlementer plutôt qu'autre chose. Donc voilà un chant qui semble encenser la guerre, qui pourrait alimenter cette imagerie qu'on a communément de l'époque et dans laquelle je vais essayer de vous montrer que finalement, il y a avant tout beaucoup d'humour. Et pour ça, on va continuer avec une razzo consacrée à Bertrand de Born, une raison. Je vous ai dit qu'on trouve dans les chansonniers des vidas, des récits fictifs de la vie des troubadours. On trouve aussi pour certains chants une raison de ce chant qui est donnée, qui le situe à peu près, là aussi, de manière plus ou moins fictive. Et voici pour un chant de Bertrand de Born qui commence par « Puisque la jolie saison fleurit ». Imaginez la suite. Remarquez que, je disais tout à l'heure, c'est une poésie du printemps et beaucoup de chansons d'amour commencent en exaltant le printemps. Eh bien, lui, Bertrand de Born, fait de même parce que le printemps, c'est la saison où on reprend ces bonnes batailles dans lesquelles on peut imaginer aussi que lui tirait quelques subsides. C'était un personnage assez étonnant. Il était ami de Richard Cœur de Lion, mais avant, il avait été ami d'Henri Courmantel, qu'il avait apparemment poussé à faire la guerre et à Richard et à son père. Et il a agité ainsi toute cette famille. Je vous dis ça parce qu'on le retrouve dans cette raison. Le roi Henri d'Angleterre tenait donc Sire Bertrand de Born assiégé dans Hautefort et il le combattait avec ses machines de guerre car il lui voulait grand mal. Il croyait que toute la guerre que le jeune roi, son fils, avait menée contre lui, c'était Sire Bertrand qui la lui avait fait faire. C'est pourquoi il était devenu devant Hautefort, le château de Bertrand de Born, pour le déshériter. Et le roi d'Aragon vint au camp du roi Henri devant Hautefort. Quand Bertrand le sut, il en fut très heureux, car le roi était son ami intime. Et le roi d'Aragon envoya ses messagers dans le château pour que Sire Bertrand lui fît tenir pain, vin et viande, et celui-ci lui en envoya beaucoup. Par le messager qui apportait au roi ses présents, il lui manda la prière de faire en sorte qu'il fît changer de place les machines et les fît mettre ailleurs, parce que le mur, à l'endroit où elles battaient, était déjà tout fendu. Mais Alphonse, gagné par les grandes sommes d'argent du roi Henri, rapporta à Henri tout ce que Sire Bertrand lui avait fait dire. Le roi Henri fit donc mettre encore plus de machines devant la partie du château où il apprit que le rempart était rompu, et aussitôt, le rempart s'écroula et le château fut pris. Et Sire Bertrand, avec tous ses gens, fut amené au pavillon du roi Henri, lequel le reçut fort mal. Et le roi Henri lui dit, « Bertrand, Bertrand, vous avez dit que vous n'aviez jamais eu besoin de la moitié complète de votre sens. Sachez qu'aujourd'hui, il vous le faut bien tout entier. » Seigneur, dit Sire Bertrand, il est bien vrai que je l'ai dit, et c'était la vérité. Et le roi répondit, « Je crois bien que présentement il vous a failli. »« Seigneur, dit Sire Bertrand, il est bien vrai qu'il m'a failli. »« Et comment ? Dit le roi. » « Seigneur, dit Sire Bertrand, le jour où le vaillant jeune roi, votre fils, est mort, j'ai perdu sens, savoir et connaissance. » Et le roi Henri, quand il entendit ce que Sire Bertrand lui disait en pleurant de son fils, il lui vint une grande douleur au cœur, de pitié et aux yeux, si bien qu'il ne put se retenir de pâmer de douleur. Et quand il fut revenu de son évanouissement, il l'appela et dit en pleurant, « Sire Bertrand, vous avez raison, et il est bien juste que vous ayez perdu le sens pour mon fils, car il vous aimait plus que personne au monde. Et moi, pour l'amour de lui, je vous rends la liberté, votre avoir, votre château. Je vous rends aussi mon amitié et mes bonnes grâces, et je vous donne 500 mars d'argent pour les dommages que vous avez reçus. » Sire Bertrand alors se jeta à ses pieds, lui rendant grâce et merci, et le roi, avec toute son armée, s'en alla. C'est fictif, mais ça fixe un peu l'imaginaire de l'époque. Et puis, au fur et à mesure de ces textes qu'on lit, et puis des petits récits qu'on lit de certains événements où la pensée courtoise a été présente, on se rend compte que c'est de moins en moins de la fiction. Bon, si vous avez encore un peu de courage... Je vais m'arrêter dans les explications parce que j'avais encore trois textes à vous dire et voilà, qui me tiennent à cœur parce que je n'y reviendrai pas dans les prochaines séances. Un texte de Bertrand de Born, de nouveau. Pour aller un peu plus avant, dans ce qu'étaient ces valeurs de la chevalerie qui ont donné les valeurs courtoises, qui ont donné la fine amour. Ou les deux ayant évolué ensemble. J'adresse cette plaidoirie à qui veut l'entendre chanter. Le prix est mort, l'honneur aussi. Et si je voulais les venger, ce serait plus de mort, de prix, que si ce monde était fini, plus que la mer n'en peut noyer, plus que le feu n'en peut brûler. Il n'y a ni tort ni folie que ma chanson veuille chanter. Celui que Dieu a enrichi par sa foi doit être guidé. Que l'on soit riche ou démuni, en démesure n'est nul prix. Et tel qui ne sait le sens garder, jamais bien haut ne peut monter. Ce sont royaumes où roi ne vit, barons absents de leur comté. Ce sont des marches sans marquis, puissants châteaux bien installés, où il ne vit nul châtelain. Malgré pourtant des greniers pleins, on y mange une maigre part par la faute d'un riche avare. De belles gens, de beaux harnois, on peut en voir et en trouver, mais où Ogier est-il parti? Baudouin, Béraud de Montdidier, sont-ils en train de se coiffer, polir leurs dents ou se raser? Mais personne qui sache aimer ni court tenir, dame honorée. Les lâches, où est courtoisie? Où sont les châteaux assiégés? Des mois durant, des cours sans vie, sans un seigneur pour y régner, en prodiguant de riches dons, en s'acquittant de ses missions, soldats et jongleurs bien payés. Un seul sait si haut s'élever. Si Philippe, roi des Français, à Richard a voulu donner Gisors, ses terres et ses palais, Richard doit fort le remercier. Si Philippe avait le cœur prompt, Richard ne bougerait talon, car il n'oserait l'affronter dans la crainte d'être ferré. Papiole, va-t'en au plus tôt dire à Richard qu'il est un lion, et que Philippe est un agneau qui ne dit rien quand on le tend. Papiole étant le nom du jongleur de Bertrand de Born. Voilà, pour revenir rapidement sur ces jongleurs, je pense que ça commence peut-être à se dessiner dans vos esprits. Un troubadour, ce n'est pas quelqu'un qui va de château en château pour chanter des chansons et gagner sa vie. Un troubadour, c'est quelqu'un qui écrit des chants, qui a trouvé. On verra dans la prochaine séance que se trouver vient souvent d'une inspiration d'amour. Et il arrive que ces troubadours payent un jongleur pour aller chanter leur chant. Ce qui donne d'ailleurs une situation particulière pour le public aussi, parce que ce jongleur, dans ce cas-là, quand il arrive, est déjà payé. Ah, Bon. J'en avais encore. Je vous passe la vida du moine de Montaudon et je vais vous dire quelques vers qu'il a écrits. Alors, pour dire vite, le moine de Montaudon est quelqu'un qui a œuvré pour un prieuré puis un autre toute sa vie. Et comment il l'a fait? Il l'a fait en écrivant des chansons qui faisaient bien rire tout le monde. Et du coup, cet homme-là a effectivement gagné plus que sa vie en écrivant ses chansons. Il a gagné la vie de son prieuré. Et donc, on peut imaginer que là, si lui, il était payé de quelque chose, c'est pas d'un salaire à la prestation, mais c'est de rente pour son prieuré. Il a écrit un chant, je vais vous donner simplement les 5 premiers couplets, il y en a 9, normalement, c'est un chant d'ennui. C'est pas ennuyeux du tout. C'est une liste de tout ce qui l'ennuie, et c'est souvent très drôle. M'ennuie fort, j'oserais le dire, qui sait parler mais peut servir. Et qui aime par trop oxyre, je le hais, et cheval qui tire. Et je hais, car Dieu l'a voulu, riche homme tenant haut l'écu, qui jamais un coup n'a reçu, et chapelain, moine barbu, et médisant au bec pointu. Comme m'ennuie d'âme envieuse, quand elle est pauvre et orgueilleuse, son mari qui la croit sérieuse, elle qui se croit fabuleuse. Et je déteste un chevalier loin de chez lui, allant frimer, et qui chez lui n'a pour métier que de piler dans le mortier, poivre et rester près du foyer. Et m'ennuie d'une autre manière, l'homme lâche portant bannière, peu de gibier dans la clairière, peu de viande et grande chaudière. M'ennuie aussi par Saint-Martin, bien trop d'eau dans très peu de vin, voir un boiteux dès le matin, je hais, un aveugle aussi bien, je n'en veux pas sur mon chemin. Je hais patience qui trop dure, viande qui est mal cuite et dure, prêtre qui ment et se parjure et vieille pute qui perdure. Je hais aussi par Saint-André l'homme vil trop bien installé. Courir quand la route est gelée et fuir sur un cheval armé. M'ennuie grossier jouant au dé. Et à jamais ça me consterne, manger sans feu quand on hiverne, vieille fumante qui décerne ses flatulences dans la taverne. Et je hais car ces fourberies que belle dame et dur mari qui la battent par jalousie. Gageons qu'un autre plus poli l'enlèvera au mal appris. Voilà, je pense que de premier abord, tout ça ne vous parle peut-être pas exactement, en tout cas pas autant que ça me parle à moi, mais voilà, une petite liste d'idées plus ou moins morales qu'on pouvait avoir à l'époque. Moi, j'aime particulièrement le voir un boiteux dès le matin, je hais un aveugle aussi bien. Ce moine de Montaudon, il semble qu'il ait pris un peu la succession d'un autre troubadour qui lui aussi était issu du monde de l'Église, il avait été chanoine. Là aussi, je vous passe sa vida et je vais vous donner pour terminer deux de ses textes. En vous précisant tout de même que là, on a avancé dans le temps et avec Père Cardinal, on est au XIIIe siècle et qu'il y a une chose qui s'est passée. Entre-temps, c'est la croisade en Albigeois contre les bons hommes et les bonnes femmes. Alors, qui c'étaient les bons hommes et les bonnes femmes? Eh bien, dans ces mouvements religieux de cette époque-là, je vous ai parlé tout à l'heure d'ordre mendiant, il y a eu aussi les Vaudois, puis ces bons hommes, qui avait en fait une réaction vis-à-vis de ce qui semblait bien être un laisser-aller de l'Église à l'époque et de ses représentants. Hein, ces représentants qu'on trouvait souvent eux aussi dans les tavernes ou avec sa propre épouse dans leur lit ou des tas de choses comme ça qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'ils prêchaient. Comme j'ai pas bien le temps d'en parler, je vous conseille à ce propos-là de lire Montaillou, village occitan d'Emmanuel Leroy-Ladurie qui décrit la vie d'un village où c'est le curé qui convainc d'hérésie les gens de sa paroisse et qui en profite pour faire un jeu de menaces et de chantage notamment là aussi pour s'adonner à tous les plaisirs qui lui viennent avec les femmes du village et voir quelques jeunes garçons, ça on n'est pas tout à fait renseigné. Mais enfin voilà, il semble bien que bien des représentants de l'Église à l'époque n'avaient pas tout à fait le comportement qu'on attendait d'eux. Il y avait un mouvement de ferveur religieuse et la réaction qui est venue, c'est que certains ont repris la flamme de la foi de façon plus ou moins indépendante de l'Église et plus ou moins défiante de l'Église. J'ai envie de dire là quand même, je vous parle de foi, je ne vous parle pas de croyance. Tout à l'heure, je vous ai dit, si tant est qu'il y ait un dogme bien établi à cette époque-là, pour vous donner une idée rapide, l'inquisiteur cité dans le livre d'Emmanuel Leroy Ladurie, ce Fournier, Jacques Fournier, si je me souviens bien, était maculiste. Il ne croyait pas à l'Immaculée Conception. La question de l'enfer et du paradis n'est pas non plus tout à fait claire à ces époques-là, comme elle le sera plus tard. C'est-à-dire que la plupart des gens imaginent que, apparemment que l'enfer s'est réservé aux démons, à Judas Iscariote, et éventuellement, ce qui n'est pas inintéressant, aux Juifs et aux Lombards s'ils exercent un taux d'usure trop important. Il n'y a pas de crime plus laid dans l'humanité que de vivre sur le dos des autres. Voilà, sinon, le reste... n'est pas passible de l'enfer, a priori, ça commence à s'imposer. Donc c'est moins une croyance à laquelle, avec un ensemble de représentations à laquelle on a affaire, qu'une foi religieuse, qu'une foi qui relie les gens entre eux. Alors un petit mot d'un catéchisme des Vaudois. Oui, la foi morte, c'est croire qu'il y a un Dieu, croire de Dieu et non croire en Dieu. Là, voilà qui vous donne peut-être une bonne idée de ce que j'essaie de vous dire. J'avais là encore une prière des bons hommes à vous lire. Ces bons hommes et ces bonnes femmes qui sont souvent issus de la petite noblesse de la région à l'époque et qui, dans cette prière, considèrent que le pouvoir des uns de commander sur les autres, c'est un vice inspiré par le diable pour étendre sa domination sur la terre. Ce qui nous donne peut-être une piste pas inintéressante pour comprendre les pourquoi de la croisade en Albigeois. Dans une féodalité qui n'était pas du tout aussi établie que nous le donnent les livres de vulgarisation d'histoire, qui était en pleine construction, que des tenants de cette féodalité disent que le pouvoir des uns de commander sur les autres, c'est un vice inspiré par le diable, ce n'était pas moindre. Enfin, je voulais aborder ces questions-là, non pas pour vous dire qu'elles sont présentes dans les chants de troubadour, mais pour vous dire qu'elles sont présentes dans la région à cette époque, et pour introduire, si j'arrive à le remettre dans l'ordre, voilà, ce texte de Père Cardinal, qui a vécu presque centenaire, et qui est donc là, lui, à ce moment-là où il écrit ça, au deuxième tiers du XIIIe siècle, la croisade en Albigeois ayant commencé en 1209, et c'est plus qu'une croisade, c'est suivi de longtemps d'acquisition, donc d'occupation des terres dans cette région. Je veux écrire un nouveau plaidoyer pour le chanter au jour du jugement à celui qui me tira du néant. S'il a quelque chose à me reprocher, si c'est au diable qu'il veut m'envoyer, je lui dirai « Cessez, Seigneur, pitié. J'ai tant peiné dans ce monde mauvais, préservez-moi des démons, s'il vous plaît. » Toute sa cour sera émerveillée quand elle entendra cette plaidoirie, car je dis qu'il commet une infamie envers les siens s'il songe à les damner. Celui qui perd ce qu'il pourrait gagner ne connaîtra que vile pauvreté. Il doit se montrer doux et plein d'ardeur pour retenir les âmes quand vient l'heure. Et il devrait déshériter les diables. Il en aurait plus d'âmes, et plus souvent. Ce qui rendrait tout le monde content, et cet acte lui serait pardonnable, que lui coûterait donc leur destruction, quand il peut s'en donner l'absolution. Beau Seigneur, détruisez ces ennemis qui nous causent tant de peine et d'ennui. Ne tenez plus votre porte fermée. Car Saint-Pierre en a honte désolante. Le portier voudrait qu'entrât souriante toute âme qui voudrait par là entrer. Nul cours n'est jamais vraiment uni si l'un pleure tandis que l'autre rit. Ô puissant Seigneur, si votre maison me restait fermée, j'en voudrais raison. Je ne veux pas de vous désespérer, j'ai mis en vous tout mon espoir. À ma mort, vous ferez votre devoir, et mon âme et mon corps seront sauvés. Je ne vous laisserai que deux parties. Me renvoyer d'où vous m'avez sorti, ou sinon me pardonner ces péchés que je n'eus commis si je n'étais né. Voilà, je vais vous faire une conclusion rapide, parce que si je continue selon mon plan, on n'est pas tiré d'affaire. Tout ça pour vous présenter la poésie des troubadours, tout d'abord, dans cet univers de pouvoir morceler avec une vie paysanne, agricole, qui semble bien se passer, dans une atmosphère de Roland, de ferveur religieuse, où l'idée de l'au-delà de la vie est primordiale et conditionne l'idée qu'on a de la vie sur Terre, où il faut bien agir, et en même temps, ce jeu des pouvoirs qui continue, avec le duc de Normandie devenu roi d'Angleterre, avec bientôt Philippe Auguste qui va être là pour agrandir les frontières du royaume de France, et cette région-là qui a vu les troubadours, qui, elle, ne rentre pas du tout dans ce mouvement, au contraire, semble se trouver très bien dans l'exaltation des pouvoirs locaux, dans la sublimation des cours que ces seigneurs font vivre, et qui, dans le même temps, se différencie au moins par deux faits importants, l'un étant de se mettre à écrire en langue romane, ce qui deviendra l'ancien provençal. Je parle bien d'ancien provençal et pas d'occitan, et que ça sera une question ensuite, mais bon. Et puis cet autre fait, d'une foi qui se développe dans la région, qui est en rupture avec l'Église romaine, mais qui n'est pas proprement parlé, à mon avis, une hérésie. La suite de tout ça, eh bien, ça va être la croisade en Albigeois et un ravivement des guerres privées dans cette région. Après la croisade, on a beau dire ce qu'on veut sur les dessins, les objectifs de Philippe Auguste, ce qu'il n'avait pas a priori dans la croisade, ce qui s'est passé, c'est que cette partie là du monde est rentrée sous le giron français dans les deux siècles qui ont suivi, et par suite de cette croisade, par suite des nouvelles alliances et de nouveaux mariages et héritages. Et la suite des troubadours, eh bien, c'est une expansion de cette langue poétique avant tout, hein, parce que c'est une langue qui a eu quelques écrits juridiques, commerciaux aussi, mais en poésie, c'est la première fois qu'on utilise la langue romane, et elle va devenir la langue poétique par excellence, bien au-delà de la sphère première des troubadours, dans le nord de l'Italie, en Aragon, au royaume de Castille, donc en Espagne aussi. Les trouvères sont une forme de suite des troubadours aussi, même s'ils ont commencé quasiment avec à peu près un demi-siècle de retard sur les troubadours. Sauf que la distinction qu'on donne entre trouvères et troubadours est complètement idiote, à mon avis. Troubéor, troubère, trouvéor, enfin il y a des tas de mots pour dire ça. Trouvère et troubère, hein, parce qu'aujourd'hui on dit troubadour, mais à l'époque on disait plutôt troubère, troubadour étant aussi une des formes, mais... On dit qu'ils écrivent les uns en langue d'oc, les autres en langue d'oil. La langue d'oc et la langue d'oil, on en parlera à partir de Dante. À ce moment-là, elle se fixe. Il y a effectivement un terreau qui est différent à l'origine. Mais là où il y a rupture, c'est vraiment à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle, j'ai envie de dire, et dans la poésie des troubadours, et dans la poésie des trouvères. C'est-à-dire que la poésie des premiers trouvères est beaucoup plus proche de la poésie des troubadours de leur époque que la poésie des trouvères d'ensuite. Autre continuation, le Dolce Stil Nuovo en Italie et les Minnesänger en Allemagne. C'est-à-dire que ce courant courtois, ce courant poétique va gagner largement au-delà de la sphère des premières des troubadours. Voilà.